Radio Grand Ciel présente Histoire et mémoire, une émission réalisée grâce à la participation technique et musicale de Jean-François Roland. Au micro, Christiane Blain. Cela fait plus de 30 ans que je connais Dick Morgan, un Américain qui naquit à Oursières, vaste domaine à quelques kilomètres de Nogent-le-Rotrou. J'ai toujours été passionnée par le récit de sa vie et aujourd'hui, il termine l'écriture d'un ouvrage qui s'intitule « Une famille, deux guerres ». En fait, c'est la chronique d'une famille américaine pendant deux guerres mondiales. Un texte que Dick Morgan a écrit en anglais et qu'il a traduit en français. Ce récit est absolument passionnant car c'est non seulement le récit de la vie d'une famille, mais c'est aussi la mémoire de deux guerres, 14-18, 39-45. Dick Morgan, bonjour.
Bonjour Christiane.
Alors, dans une première émission, vous avez évoqué votre famille, votre mère, sa rencontre avec ce prince polonais et puis ses problèmes à propos de ce mari polonais et donc son désir de partir aux États-Unis. Aux États-Unis, elle doit se battre pour pouvoir retrouver ses trois enfants. Elle va donc chez un avocat. Cet avocat, il s'appelle Morgan. Et elle va l'épouser, c'est votre père, Dick Morgan. Alors, nous avons évoqué le travail de votre père, à savoir, il était donc avocat, mais très vite, il va participer à la guerre de 14. Nous avons évoqué les premières tranchées, et maintenant, je voudrais insister sur le fait qu'un jour, sa famille reçoit un câble, et je lis ce câble, « Regret ». Vous informez, lieutenant-colonel Morgan, RFA, admis numéro 8, hôpital général Rouen, multiples blessures. Alors, Dick Morgan, est-ce que vous pouvez évoquer quelle a été la réaction de votre père à ces blessures à Rouen ?
Eh bien, il était évidemment assez choqué. Il avait des éclats d'obus sur l'ensemble de son corps. Il avait perdu des dents. Il avait un peu partout.
Et je crois qu'il avait un œil aussi.
Et il avait un œil touché, mais il a été envoyé dans un premier temps dans un hôpital à Rouen. Et par la suite, il a réussi à se faire transférer à un hôpital à Londres, hôpital militaire à Londres.
Oui, alors parlez-nous de cet hôpital militaire qui s'appelle Sister Agnes, parce que c'est très connu.
Sister Agnes est le nom de cet hôpital qui était réservé à des officiers qui avaient les moyens financiers de pouvoir améliorer leur ordinaire tout en se faisant soigner et par la suite en récupérant.
Oui, d'ailleurs, on voit dans votre ouvrage que plusieurs fois, il écrit à ses parents de lui envoyer un petit peu d'argent parce que tout ça lui occasionne des frais.
Mon père avait beaucoup de mal à vivre sur la solde d'un officier. Et il a eu, pendant la guerre, de multiples recours à ses parents pour l'aider financièrement.
Là, le séjour à l'hôpital Sister Agnes n'était pas gratuit et c'était même, je crois, assez cher.
Je ne sais pas si c'était très cher, mais c'était en tout cas pas gratuit.
Voilà. D'ailleurs, si vous permettez, je vais lire un petit passage, toujours d'une lettre que vous avez retrouvée. Je suis arrivée à Londres cet après-midi et me voici luxueusement installée chez Sister Agnes. Mes blessures se résorbent bien. Celle qui a percé ma lèvre inférieure en enlève deux dents est la plus pénible, rendant mes repas peu agréables et les cigarettes impossibles. La jambe gauche va mieux, ainsi que le genou. Je serai bientôt capable de me déplacer à pied. La plaie autour de l'œil est maintenant sèche et plus du tout enflée, ce qui me permet de lire et d'écrire sans difficulté. Toutes les autres plaies sur ma jambe droite, mes bras, mes mains se sont bien asséchées. Donc, on voit bien que ce garçon essaie de ne pas affoler sa mère et de dire qu'il ne souffre pas trop.
Absolument. Il minimisait toujours ses blessures et son inconfort au front.
Alors ensuite, il va donc retourner dans la Big Push. Alors parlez-nous de la Big Push, cette offensive britannique sur la Somme. C'était l'été 1916. Et là, je crois qu'il y a eu beaucoup d'hommes qui sont morts.
Oui, c'était là où il a eu cette première blessure. Et ça fait partie de l'épopée de la Première Guerre. C'était au printemps 1916 que les forces anglaises ont lancé une attaque massive sur la Somme, ayant auparavant préparé le terrain par des tirs d'artillerie très massifs. Malheureusement, les Allemands avaient eu l'intelligence de creuser des dugouts très profonds et ont pu, lors de l'assaut de l'infanterie britannique, pu ressortir leurs mitrailleuses et ont infligé des dégâts très, très considérables. C'était une, avec Verdun, je crois que c'était les deux batailles les plus sanglantes, les plus éprouvantes pour les Alliés de cette horrible guerre.
Et d'ailleurs, il écrit un peu plus loin, « Je suis plein de petits fragments d'obus qui ont tendance à sortir d'eux-mêmes. Chaque matin, je peux retirer un souvenir de France, d'un bras ou d'une jambe. Presque toutes mes blessures sont résorbées, la jambe devient sèche, l'extérieur de ma lèvre va mieux. L'intérieur de ma bouche me gêne toujours à cause de l'infection. » Mais le dentiste s'en occupe. Donc, toujours essayant de montrer à sa mère que tout va bien.
Exactement.
Alors qu'il souffre terriblement.
Exactement.
Enfin, une bonne nouvelle, le 26 août. Expliquez-nous.
Alors, ce jour-là, il put annoncer à sa mère qu'il venait d'être décoré, cité pour le Military Cross, qui est une décoration à peu près équivalente à la médaille militaire. Et par la suite, il alla à Windsor avec un groupe d'officiers où il fut décoré par le roi George V. Et sa description de Windsor et de cette réception est charmante et fait évidemment pour amuser, rassurer sa mère à qui il a dit que, il assurait en disant que il avait subi cette visite uniquement pour lui faire plaisir et en espérant qu'elle serait reconnaissante de ses souffrances.
Exactement. Il dit bien, c'était assez terrible, je l'ai fait absolument entièrement pour vous faire plaisir, maman chérie. J'espère que vous me serez reconnaissant pour toutes ces souffrances. Alors, il a aussi des amis américains qui s'étaient aussi engagés dans l'armée anglaise. Alors, vous pouvez peut-être parler de ces amis anglais.
Bien, ces deux amis
américains
avec qui il était très lié, lié avec leur famille qui était venue s'installer en Angleterre. Il a eu la triste devoir pour un d'eux d'annoncer son décès, sa mort au champ de bataille de la Somme aux parents.
Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que votre père aimait beaucoup le théâtre. Et quand même, pendant la guerre, il essaie d'y penser. Alors, vous pouvez peut-être nous en parler de ça.
Oui, non seulement d'y penser, mais il écrivait. Il avait écrit une pièce qui était produite à Londres en 1916 et qui a eu un succès moyen, je pense, avant la faillite du producteur. Qu'est-ce qui a eu comme résultat la fermeture du théâtre.
Alors ensuite, après, il va être envoyé à Edinburgh pour attendre son départ et il arrive en France début mars 1917.
Oui, il était de nouveau
en France.
En France.
Et alors il pensait qu'il serait envoyé dans l'ancienne division et qu'il pourrait retourner dans un poste analogue au dernier poste. Alors, qu'en est-il ?
Je suis bien content de me retrouver parmi les Français. Je crois que je prendrai la nationalité française après la guerre. C'est avec celle que j'ai le plus d'affinité. 3 jours plus tard, les États-Unis déclarèrent la guerre en Allemagne et Charles et sa division remontèrent en ligne pour participer à une offensive alliée. Sa prochaine lettre est datée du 11 avril. « Je suis sain et sauf après notre attaque et je pense que notre batterie a fait du bon travail. » C'était comme Fricourt, où il avait été blessé, mais sans la blessure.
Oui, alors ce qui est assez aussi amusant et étrange à la fois, c'est qu'il avait acheté une chienne qu'il avait appelée Comtesse. Alors, pouvez-vous évoquer cette chienne aussi? Parce que j'avais pas l'impression que dans une guerre, on pouvait avoir un chien.
Bien, c'était très difficile. Il avait cette chienne qui a même fait une portée de 11 chiots dans les tranchées.
Oui.
Et par la suite, se rendant compte que c'était vraiment très, très difficile et surtout avec l'interruption de ses blessures, il a pu l'envoyer chez des amis à Amiens qui étaient propriétaires d'un restaurant où elle a été bien soignée.
Alors, il va pouvoir aller se reposer et pour cela, je crois qu'il va partir en Angleterre.
Oui, il a une permission en Angleterre.
Je crois que c'était avec Alice O'Brien, une amie de la famille.
Lors d'une de ses permissions en Angleterre, il avait constaté que tous ses amis étaient partis aux quatre coins du monde et il a failli reprendre le prochain bateau pour la France. Mais une des amies de la famille, de ses amies de la famille, qui s'appelait Alice O'Brien et qui était très connue avant la Première Guerre, comme cantatrice à l'opéra et à l'opéra comique. Et là, il est parti faire une cure dans un village, une ville d'eau, dans le nord de l'Angleterre. Il a trouvé l'endroit le plus ennuyeux du monde, mais qui lui a fait beaucoup de bien. Et il nous donne un commentaire en disant que les autres clients sont du type néo-démodé anglais et tu peux te rendre compte de la sensation qu'Alice, sa amie, très parisienne, provoque parmi eux.
Eh bien, si vous le voulez, nous allons marquer une pause musicale. Je suis toujours avec Dick Morgan et nous évoquons les deux guerres mondiales. Alors, la Première Guerre mondiale, nous étions au mois de mars 1918. Les Allemands lancèrent une dernière offensive dans l'espoir de gagner la guerre avant que l'arrivée massive des troupes américaines rende une victoire impossible. L'attaque fut concentrée sur le front britannique et Charles se retrouva au cœur des combats. Ses prochaines lettres montrent une vive description de cette période absolument cruciale. Il est grièvement blessé et puis c'est la fin de la guerre. Il va aller se reposer à Menton et puis il retrouve son épouse. Et puis alors, une chose très importante, ils habitent Paris et ils vont chercher à avoir une maison à la campagne. Alors, pouvez-vous évoquer cette partie beaucoup plus gaie de votre vie aussi, Dick Morgan?
Oui, bah, de ma vie qui a commencé à l'époque.
Voilà.
Car je suis né en 28.
Vous êtes né en 28 et vos parents, juste un an avant, donc, cherchent une maison à la campagne. Et ils tombent amoureux de ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire un petit château Louis XIV situé dans un très beau parc au cœur du Perche, à 150 km de Paris. Et je crois que ce fut le coup de foudre. Et j'ajouterais que je crois que ce qui les a vraiment décidés, c'est que sur la grille d'entrée, il y a un M comme Morgan.
Je ne sais pas, il se trouve que je crois que tous les précédents propriétaires d'Orcières ont eu
un
nom commençant par la lettre M.
Donc c'est quand même une chance quand on visite une maison de voir qu'elle vous attend. Alors, parlez-nous un petit peu de cette maison et comment vous y avez vécu, puisque vous y êtes né.
Moi, j'y suis né et j'y ai passé une enfance de rêve à la campagne. J'ai eu comme compagnon principal les fils du fermier de la propriété. Et mes parents, ayant atteint l'âge de 5 ans, 6 ans, se sont rendus compte que je ne parlais pas un mot d'anglais.
Ça, c'était quand même un petit peu gênant. Hein.
Ce qui était un peu gênant. Alors, ils ont importé une gouvernante anglaise qui a remis ça au point.
Alors, vous aviez quand même aussi un groom anglais pour les chevaux.
Il y avait un groom anglais pour les chevaux. Oui. C'était très... À l'époque, c'était
C'est normal.
Normal, les jockeys...
Il y avait deux jardiniers, un garde-chasse... C'était une maison agréable à vivre.
C'était dans la période d'avant-guerre, surtout dans les années 20, d'avant-guerre.
La vie était plus facile.
La vie était facile et moins chère.
Et d'ailleurs, votre mère va faire venir aussi une nourrice.
Oui, alors pour l'aider à gérer la propriété, maman a fait venir Mademoiselle de Galles, des Irka,
dont nous avons déjà parlé,
qu'elle avait rencontrée lors de son séjour en Russie avant la guerre. Et Mademoiselle de Galles et sa sœur se sont installés dans le village d'Argentvilliers. Par la suite, en 1940, après, au mois de septembre, l'instituteur du village étant sans doute prisonnier, elle a assuré l'instruction.
Alors, vos frères aînés aiment beaucoup cette vie à Oursières. Et tout le monde adore y venir les fins de semaine.
Absolument.
Et vous liez des amitiés avec les gens du pays?
Oui, absolument. Nous sommes fait beaucoup d'amis, que nous conservons d'ailleurs, dans le voisinage.
Alors, disons que c'était une vie très idyllique. Et puis, il va y avoir le fameux krach boursier de 1929.
Oui.
Et là, je crois que les choses vont un peu changer quand même.
Les choses ont un peu changé, mais moins qu'on pourrait le penser.
Oui.
Parce qu'il y a quand même conservé le groom anglais, la garde-chasse, la gouvernante pour moi.
Mais peut-être que l'hôtel parisien a été
l'hôtel
abandonné.
L'hôtel particulier à Paris avait disparu. Oui. Et mon père s'est installé dans un petit appartement sur l'île Saint-Louis.
Donc, il y avait à Oursières, quand même, les chasses pouvaient continuer et la vie était très agréable. Alors, vous-même, comment sont vos études?
Mes études ont été, comme je viens de le dire, gérées par notre gouvernante anglaise qui a été très efficace.
Mais ensuite, on va vous préparer pour
l'entrée dans un pré-pensionnat anglais.
Voilà.
Où j'ai été expédié à l'âge de 8 ans.
Alors, tout cela coïncide avec la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire que le 1er septembre 1939, c'est l'invasion de la Pologne par l'Allemagne nazie, et la France et l'Angleterre donc déclarent la guerre ensuite. Et votre père, qui alors a 55 ans, eh bien aussi, il souffre toujours de ses blessures, mais il va s'engager dans la guerre. Alors ça, j'aimerais bien que vous nous évoquiez cela.
Mon père, je crois, a toujours été un idéaliste et il a sérieusement pensé qu'il n'avait pas le droit de bénéficier de toutes les années heureuses qu'il avait passées en France et puis de quitter le pays quand les choses tournaient au plus difficile. Alors, il a réussi à se faire réintégrer dans l'armée anglaise, dans un poste supposément non combattant, mais en printemps 40, il n'y avait pas de poste non combattant oui. Et il fut fait prisonnier.
Alors ça, ça va être vraiment très compliqué parce que il est fait racontez-nous où il a été fait prisonnier.
Il a été fait prisonnier à Calais au mois de mai, le 26 mai 40, et a été envoyé à un camp de rassemblement avant d'être expédié en Allemagne, dans un premier temps en Bavière et divers autres camps par la suite.
Et votre mère, pour elle, ça n'est pas plus facile non plus ?
Racontez-nous. Non, maman, dans un premier temps, elle bénéficiait du fait que les États-Unis étaient neutres. Elle avait un passeport américain et Orsières était une propriété neutre et donc pas susceptible d'être réquisitionnée par les Allemands.
Par contre, en 1941, c'est la déclaration de guerre américaine. Et là, ça va tout changer pour votre mère.
Oui, ça va changer au point où, finalement, en 1942, les Allemands sont venus la chercher parce que les femmes anglaises et américaines étaient séquestrées pendant la guerre dans un camp d'internement à Vittel. C'était quelque chose qui était normal à l'époque. Les États-Unis et l'Angleterre ont fait la même chose.
Oui. Donc, votre mère va être obligée de partir.
Maman, elle est obligée de partir. Et il se trouve qu'au moment de son départ, une voisine très proche qui habitait le château de Bongrand, Madame Deleuze,
va lui louer la maison.
Oui, était venue avec maman à Orsières. Car mon grand était occupé par l'état-major allemand. Et maman, sachant que son départ pour un camp d'internement était inévitable, avait fait préparer par le notaire de Beaumont-les-Hôtels un bail louant Orsières à la comtesse de Leuze, ce qui a évité que la propriété soit confisquée comme bien ennemi.
Voilà. Et donc, elle reviendra à Orsières en se cachant dans une carrière. Et elle retrouvera son mari en quelle année, donc ? Il reviendra... Donc,
elle a été libérée de son camp d'internement à Vittel et elle a pu regagner Orsières. Et en 44, au moment de la guerre de libération, elle se cachait dans le fond du parc d'Orsières, par peur de se faire ramasser pour être renvoyé à Vittel.
Oui. Et votre père, lui, va connaître aussi différentes péripéties. Mais je vous invite, chers auditeurs, à lire cet ouvrage parce qu'on ne peut pas tout vous dire. Et je crois qu'il faut lire ce récit absolument passionnant. Je vous en donne le titre. Une famille, deux guerres, la chronique d'une famille américaine pendant deux guerres mondiales, un texte qui a été écrit en anglais et traduit en français par Dick Morgan. Un grand merci, Dick Morgan. Je crois que tous nos auditeurs auront à cœur de lire cet ouvrage. Et je rappelle que cette émission peut être réécoutée sur notre site internet www.radiograndciel.fr. Merci Dick Morgan.
C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Thank you.
Thank you.